Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Marie-Noël Tranchant, Dominique Borne, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors nous allons au cinéma et nous allons voir trois films. Nous allons voir Vivant, nous allons voir Le Molière Imaginaire et Bob Marley on Love. Je vous propose de commencer par Vivant de Alix Delaporte avec Alice Isaz, qui est superbe, Roche Dizem, Vincent Elbaz. Nous sommes dans une agence de presse. Gabrielle, ancienne guide de haute montagne, cherche un stage et devient un peu le couteau suisse d'une équipe de reporters. Alors, ça a des allures de film policier. Quand Damien Elbaz se fait tirer une balle, il s'en sort l'air de rien. On a une scène de boléro dansée par Roche Dizem, qui n'a pas la force de Rochefort dans Le mari de la coiffeuse. On garde l'apparition à l'écran de Maxime d'Aboville jouant un ministre de la Santé. Voilà pour ce que j'ai retenu de ce film. Film qui est un peu hystérique, le téléphone portable sonne tout le temps. On a l'impression d'être dans une grande rédaction, mais on est dans une toute petite agence d'information qui n'a que 5 personnes. Mais écoutons quand même cette bande-annonce et voyons les films, mais le côté film policier.
Je suis désolée, on part en tournage là. J'ai dit ok pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, hein. C'est quoi ton truc? Je sais réparer une caméra. Ça, on a des gens pour ça. Hein.
Allez.
Vincent, le rédacteur en chef de l'émission.
Merci.
Chouchou.
Bon, on y va?
Prends-la avec toi.
Batterie!
Ah, mais vous débrouillez, vous passez, hein? Vous rentrez pas sans rien?
Ok, on va se démerder.
Je peux filmer si tu veux, j'ai la caméra de secours.
L'émission, elle est pas que sur la police?
Non. Qu'est-ce que vous faites?
Je pouvais pas savoir.
Tu fermes ta gueule.
Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde!
Ok. On recommence un peu plus vite.
Il y a une attaque à Bangui. Mais là, il y a 128 morts.
Un gilet pare-balles?
L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça.
Les trois quarts de la planète sont en train de crever, lui, il nous demande du rêve.
Qu'est-ce qui se passe?
Damien s'est fait shooter.
Je le cherchais.
Je suis contente de te voir.
C'est là qu'il s'est pris la balle.
Et il a des images? C'est la chaîne qui me demande.
Tu crois qu'on peut le diffuser?
Les gens veulent plus voir la mort.
Ouvre l'œil. Imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi, et ben, tu le vois.
Tu te fais bouffer quand même.
Oui, mais au moins t'as l'image.
On est en train de sauver des vies, là, donc.
Et vous en faites quoi après? Vous les mangez?
3 heures à tout dérocher pour vous entendre rigoler comme des cons.
Vous bossez pour un groupe. Quand est-ce que vous allez comprendre ça?
J'ai pas fait tout ça pour filmer les défilés. Ça me casse les couilles de faire ça, en fait.
Elle est où, la petite?
Essaye d'aller à l'essentiel. Fais comme si t'avais qu'une seule question. Vous voulez vraiment vous accrocher à une émission qui a plus de 15 ans?
C'est notre taf, hein. On filme.
Voilà, Vivant de Alix Delaporte. Alors, Dominique.
Bon. Alors. Bah, c'est une. Oui, on est dans une plongée, si on peut employer le mot cliché, dans une petite salle de rédaction. Et au fond, on est un peu à la place d'Alice Isaz, c'est-à-dire la stagiaire qui débarque là-dedans et qui découvre ce monde. C'est un film en mouvement, ça n'arrête pas, ils bougent tout le temps parce qu'ils vont sur des reportages, ils s'en vont, d'autant que l'émission est menacée et qu'elle va peut-être disparaître. Il y a une petite vision du journalisme qui n'est pas fausse, parce que ça peut être un service d'info dans un journal aussi, ça peut être ça. C'est pas mal vu pour un journaliste qui regarde... Bon, ça vaut pas les grands films sur le journalisme dans le style de Ballet Masque de Brooks avec Bogart. La fin d'un journal, c'était un peu l'histoire de l'aurore bien avant. Moi, j'aime beaucoup ce film. Ou Le Gouffre aux Fimères. Il y a eu quelques films sur le journalisme qui étaient très justes. Bon, là, on sent que c'est un film fait avec des petits moyens, avec des acteurs, disons, souvent des seconds rôles, des gens qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans les premiers rôles. Alice Isaz est pas mal dans le rôle de la stagiaire.
Il y a Vincent Elbaz
qu'on voit un peu plus maintenant. C'est un petit film assez juste et qui a l'art de... On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça dure 1h25, ça bouffe beaucoup. Il y a du mouvement, il y a quelques vérités. Il y a... Sur le journalisme, c'est pas faux. Et alors ça finit sur un reportage. Moi j'ai cru que c'était sur l'incendie de Notre-Dame.
Alors donc, ça on peut pas en parler.
Voilà. C'est pas l'incendie de Notre-Dame.
Non, mais c'est la bonne idée du film.
Oui, c'est la fin est finie comme un gag. Mais non, c'est un petit film sympathique et assez juste sur le monde du journalisme, des reporters en tout cas qui sont obligés de partir sur des points chauds. Voilà.
Marie-Noël Tranchant.
Oui, je l'ai trouvé aussi sympathique ce film parce que comme le dit Dominique, c'est Et ça porte bien son titre, c'est vivant. Il y a une effervescence, il y a cette animation, cette tension qu'on trouve dans les rédactions, qui est quand même un côté très amusant et stimulant du journalisme. Il faut être prêt à faire des choses, à partir sur des... Et ça, c'est très sensible. Plus, ce que j'ai trouvé également sympathique, parce qu'on a pas l'impression aujourd'hui que c'est encore comme ça, donc ça m'a fait plaisir, un chaos de personnalités différentes, dont le rédacteur en chef, qui était lui-même grand reporter, qui partait sur le... et qui est maintenant au bureau, en train de gérer tout ça, et qui dit à un moment qu'il n'a pas le bac. Or, ça, c'est des choses qu'on a connues, Dominique et moi, des journalistes. Il y avait de toute provenance. Oui, il y en avait de toute provenance. Il n'y avait pas de formatage. On passe par des écoles de journalisme. Non. Il y avait aussi bien des diplômés de l'enseignement supérieur que des gens sans le bac, en effet, mais qui avaient la passion du métier et qui ont fait leurs preuves sur le tas. Tout ce mélange, il est là et ça fait plaisir de... pouvons penser que peut-être ça existe encore. Et non pas ce côté formaté idéologiquement qu'on voit à travers notamment toutes les histoires aujourd'hui de la presse qui sont soulevées par le Conseil d'État et nos amis de Reporters sans frontières. Là, c'est beaucoup plus disparate, divers, en action, en mouvement. Et ça, c'est très sympathique. Et ça va vite, on sent la pression à la fois du métier, des patrons aussi, parce qu'il faut faire de l'audience, on sent qu'il y a cette pression, puis qui voudrait attirer un public jeune. Donc il y a des questions de métier qui sont soulevées sans didactisme, mais dans le feu de l'action. Bon. Et tous ces gens sont, vivants, ce qui est quand même agréable, vivants, curieux, avec leurs défauts aussi, qui ne sont pas cachés.
Je comprends très bien l'amour que nous avons tous pour le journalisme, mais là, j'ai trouvé que c'était quand même très, très artificiel. Enfin,
alors, oui, c'est un moi, je dirais plutôt que c'est un peu idéalisé parce que ça condense. Ça condense des situations et on télescope des sujets. Et tout ça est vu par une stagiaire novice et passionnée. C'est un peu, je suis d'accord, un peu construit, un peu fabriqué, bien sûr. Mais il y a ce côté...
Moi, j'étais gêné. En fait, je n'ai vu que les fils.
Oui, je comprends.
J'ai pas vu la matière.
Je comprends.
Alors, je vous propose que nous passions à Molière imaginaire d'Olivier Py, avec Laurent Lafitte de la Comédie-Française, Stanley Martin, Bertrand de Rofignac. Nous sommes. Et puis, alors, il faut dire aussi avec. Oui, alors nous sommes le 17 février 1673, c'est le dernier jour de la vie de Molière. Molière veut absolument jouer le malade imaginaire, c'est la quatrième représentation, le roi n'est toujours pas venu. Il est entouré d'Armande, sa jolie femme, de Michel Baron, son joli giton. Tout se passe comme dans une maison de poupée, on descend les étages en miniature, il y a beaucoup de clins d'œil biographiques comme la coquille dans laquelle Madeleine Béjart osa avouer le vicomte, le préambule des fâcheux, vous vous en souvenez, et puis il y a la scène de séduction entre Baron et le grand Condé qui est lourde et inutile. Mais enfin, si ça ne vous dérange pas de voir Molière et Baron se rouler une galoche pendant au moins 5 minutes sur grand écran, n'hésitez pas à aller le voir. On écoute quand même la bande-annonce.
Molière, il faudrait reprendre.
Place au théâtre!
Perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Faudrait reprendre Nicomède.
Je n'ai pas de talent pour la tragédie.
Un bouffon reste un bouffon.
Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi.
On dit que c'est Corneille qui a écrit le Tartuffe.
Il n'aurait pas osé le signer.
Tu es sûr de pouvoir continuer?
Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger.
Le roi va venir, Jean-Baptiste.
Votre corps est épuisé.
Je sens de temps en temps des douleurs de tête.
Justement. Mais le poumon.
Pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrivit une lettre de renonciation à son métier.
Je ne suis pas au service de l'Église, je suis au service du roi.
Si tu ne signes pas, on va te jeter en pleine nuit dans la fosse commune.
La troupe va se déchirer sans lui.
La troupe existait avant lui.
Le roi,
toujours pas.
S'il meurt, tout est fini. Tout commencerait pour d'autres.
Le roi m'a trahi. L'Église m'a trahi.
Vous m'avez tous trahi.
Je vais tâcher de ne pas rater mon entrée. Ni ma sortie.
Il faudrait trouver un nouveau nom qui convienne à tous. La Comédie Française.
Ça ne marchera jamais.
Sont rudement bien faits tous ces jeunes qui sont nus et qui se et qui s'habillent au dernier moment pour mettre leur leur soutane de médecin. Voilà, Dominique, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film?
Ce que j'en ai pensé, pas beaucoup de bien. Je me suis un peu ennuyé.
Ah oui.
Et voilà, c'est les deux dernières heures de Molière, juste quand il va mourir. Et, normalement, je crois qu'il meurt sur scène, dans le fauteuil. Et ce fauteuil est aux Français, d'ailleurs.
Oui, alors il n'est pas mort sur scène.
Il est mort. Mais le fauteuil...
Où il a joué dans ce fauteuil, qui est à la Comédie Française, à l'étage, juste presque en face du bus de Victor Hugo.
Voilà. Et c'est un Molière en coulisses, c'est un Molière revu et corrigé par Olivier Py. Donc il y a un peu de la vie de Molière, il y a des fragments, comme Armand Béjart, comme ses amis. Mais il est certain que tout baigne dans une homosexualité latente. On sent que c'est assez obsessionnel chez Py et c'est un peu gênant parce que je ne sais pas si Molière était bisexuel. Là, il le laisse entendre.
Alors il y a une histoire avec, en effet, le petit baron.
Oui.
Lorsque Molière, à la fin de sa vie, découvre ce jeune garçon, ce jeune effet magnifique, qui joue merveilleusement la comédie, qui est lui-même enfant de comédien, et qui est de passage à Paris, dans une troupe un peu amateur de jeunes, et ils avaient loué le théâtre pour 4 représentations. Et puis Lagrange va voir Molière, en disant, va voir, il y a un gars absolument formidable, il y va, il tombe sur ce garçon, mais il est fasciné par ce garçon, et qui va rester dormir chez lui, et il va l'habiller de pied en cap, puisqu'il va demander à un tailleur de lui faire entièrement des habits. Et il va y avoir un problème entre ce jeune baron et Armande Béjart, la femme de Molière, qui va gifler le gosse sur scène au cours d'une répétition, et donc le gosse va partir à travers la France. Et au bout de 6 mois, il va revenir, et cette fois-ci, il va vivre chez Molière. Et c'est lui qui, c'est dit dans le film, jouera le misanthrope après la mort de Molière. C'est lui qui reprend le rôle. Et il a 19 ans. À ce moment-là. Bon, alors, est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles entre Molière et Baron? C'est affirmé par Ramon Fernandez dans sa biographie, et dans la biographie que j'ai signée chez Gallimard, je ne peux pas aller contre, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'indices et documents qui laissent penser à ça, et ce n'est pas un problème. Donc, mais là, ils en font un sujet.
Là, ils en font
un sujet. Alors que ce n'est pas ni un problème, ni un sujet, ni un sujet, vous voulez, pour moi.
Non, autrement, il y a des scénettes, il y a une préciosité, ça, on retrouve une préciosité dans les décors, dans les costumes, dans les personnages. Il y a quelque chose de trop appuyé et qui finit par ne plus nous passionner.
Il y a tous ces visages blancs que l'on voit comme ça dans les galeries.
C'est le petit théâtre de Molière revu par Olivier Py. Et moi, je dirais que c'est un Molière façon gay. Apprécier ou ne pas apprécier, mais moi, j'ai pas retrouvé Molière. J'ai beaucoup pensé au Molière de Mnouchkine.
Évidemment.
Le film qui était sorti en 79, mais inspiré de sa pièce.
En deux parties.
Avec Philippe Cobert, qui composait un Molière beaucoup plus sympathique et beaucoup plus près de ce qu'on connaît ou de ce qu'on croit connaître de Molière. En tout cas, là, on ne retrouve pas le Molière qu'on connaît ou qu'on apprécie. C'est un peu gênant. Donc, c'est un théâtre, c'est du spectacle. Voilà.
C'est une maison de poupée.
Et c'est tout, oui.
Marie-Noël.
Oui, j'ai trouvé le film, en effet, très fatigant et étouffant, parce qu'on est dans cet univers délibérément, complètement clos, entre scène, salle et coulisses. Et tous les visages se ressemblent, sont outrancièrement maquillés, de blanc avec des joues très rouges, très 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 clownesque, très forcé. Alors, on imagine que le réalisateur veut montrer que les comédiens et le public, c'est la même chose, que le spectacle est dans la salle autant que sur la scène. Oui, mais enfin, le procédé est quand même extrêmement fatigant et monotone. Mmh. Et puis, le chromatisme est très laid. C'est du rouge et du jaune très, très cru et du noir, peu des couleurs, ça très, très tranché, très... Les éclairages sont très moches. On voit que ce sont des fausses bougies. On ne sait pas pourquoi. Il me fait presque des gros plans sur des lustres aux bougies électriques, parfaitement immobiles. Alors que on peut mettre même des ampoules flammes qui bougent un peu, qui donnent l'île. Non, délivrer. Et donc ce côté extrêmement raide et cru et m'a paru sans pénible et sans intérêt. Je n'en vois pas la signification. Donc c'est très, oui, très étouffant.
Alors il y a des... Oui, pardon.
Il y a une scène que j'ai trouvée réussie, c'est la scène du poumon. Quand il joue la scène du poumon, alors elle ça, est c'est très...
Eva Rami. Hein? Eva Rami, qui joue Toinette, est extraordinaire.
Est excellente.
Absolument. Hein?
Et cette scène-là, ouais. Là, tout à coup, on est avec Molière.
Là, on est dans le théâtre. Mais c'est Eva Rami qui fait le truc. Parce que Laurent Lafitte n'est pas là, finalement.
Non.
Alors, il y a deux erreurs. Alors qu'il y a plein de petites choses, comme quand il parle de l'histoire de la coquille à Volvicomte, tout ça, c'est vrai. Mais enfin, ceux qui ne connaissent pas la vie de Molière dans son détail, ça ne sert à rien, si vous voulez. Et puis, il y a deux erreurs importantes, à mon avis. Il y a d'abord l'enterrement, puisqu'il a voulu faire un enterrement comme l'enterrement de Mozart, où, vous savez, il y avait juste un chien. Et de fait, là, il y a juste un chien. Oui. Or, Molière n'a pas été enterré juste avec un chien et à la périphérie de Paris, mais il a été enterré en plein centre de Paris dans une fosse commune. Bon, et de nuit. Donc ce n'est pas du tout, et très entouré par toute la troupe. Donc ce n'est pas du tout, on ne peut pas comparer du tout à Mozart, et il n'est pas Milos Forman, ce cher Olivier Py, malheureusement. Et puis il y a la musique du Malade Imaginaire, parce que, je ne sais pas si vous avez relu le Malade Imaginaire, ça commence dans un prologue où il y a Arlequin qui crie sur les violons en disant « mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là ». Ben oui, parce que Lully avait interdit qu'il y ait de la musique en dehors de sa signature. Et donc, c'est Charpentier qui doit faire la musique, mais il n'y a qu'un seul violon. Il n'y a qu'un seul violon. Je ne sais pas si vous imaginez, parce qu'on ne pouvait pas avoir deux violons, sinon ça faisait un orchestre. Donc, il ne peut pas avoir un orchestre avec un chef d'orchestre devant. C'est juste pas possible. Voilà, donc ça, c'était le Molière imaginaire d'Olivier Py. Pas besoin d'y aller. Donc, Bob Marley, On Love. Alors, Bob Marley, On Love, eh ben, c'est un biopic difficile de s'affranchir d'un cahier des charges assez encombrant dès lors que la famille a été impliquée dans la production. Je cite quand même Lopes, qui a titré « Grossier film ou mauvaise blague ?» Point d'interrogation. Ben, on va le savoir en écoutant la bande-annonce. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs.
T'as écrit ça quand?
Toute ma vie.
Le reggae, c'est la musique du peuple. Vous êtes vraiment une superstar.
Je suis pas une superstar. On peut pas séparer la musique et le message. Vous savez, le reggae, ça unifie le peuple.
Tout le monde n'aime pas ce que tu racontes. Pour ta sécurité, il faut que tu arrêtes.
Le 3 décembre 1976, un groupe de marmés a fait une irruption au domicile de Bob Marley pour tuer le chanteur, sa femme.
Vous en faites pas pour ça.
Don't worry. What a thing.
That every little thing gonna be alright.
Vous l'aimez bien celle-là?
Oui.
Ici, c'est la guerre. Comment je peux amener la paix? J'arrive même pas à amener la paix en moi.
Rise up this morning. Smile with the rising sun.
Dominique Borne.
Oui, ben, c'est un film en deux temps, en fait, sur un musicien, mais quelqu'un aussi qui a un militant, c'est-à-dire qui veut réconcilier les deux parties qui se battent à la Jamaïque à ce moment-là.
Et c'est intéressant de voir la complexité de la Jamaïque de ces années-là. Voilà. Ça, c'est bien rendu.
Ça, en revanche, on le découvre un peu, on plonge dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est intéressant. Sinon que, du début à la fin du film, la musique reggae baigne le film complètement, et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont écouté ça pour la musique, qui suivront pas tellement les péripéties. Bon. Sa vie de famille, on ne sait pas tellement, parce qu'il a une femme dans sa vie, mais on laisse supposer qu'il en a eu beaucoup d'autres, qu'il a eu des enfants naturels. Tout ça est passé un peu sous silence, on l'ajoute un peu en plus, comme ça. C'est dit, mais ce n'est pas montré. Donc c'est vrai que c'est une hagiographie très partiale. Quoi. Bon. Le personnage qui joue, en revanche, Bob Marley, est assez crédible. Oui, il lui ressemble beaucoup. Et à la fin, comme souvent dans cette histoire vraie, on nous passe des vraies bandes du Bob Marley, et quand il répond à certaines questions, c'est intéressant.
Dit,
vous avez réussi, vous avez de l'argent. Il dit non, je sais pas. Enfin, l'argent n'était pas important pour lui. Ça, on peut le croire. Bon, il y a un personnage qui est assez sympathique. Et maintenant, si vous n'aimez pas le reggae, n'allez pas voir le film, quoi. Surtout pas. Mais moi, qui étais un petit peu loin de ça, je me souvenais bien sûr de Bob Marley. Je savais pas qu'il était mort d'ailleurs si bizarrement d'un cancer
d'un orteil.
Oui, dans l'orteil. J'ai trouvé le film assez agréable, pas trop lourd pour une hagiographie, et porté par la musique. Bon, ça, c'est très important. Parce que c'est un film musical de bout en bout.
Marie-Noëlle.
Oui, moi, j'avoue que je l'ai bien aimé. J'avais aucune connaissance particulière de Bob Marley. Et je me suis laissée embarquer par le film. En effet, hagiographique, ça, il faut le dire, on le sent tout de suite. Il n'y a que
la famille derrière, hein.
Il n'y a que du positif chez Bob Marley, ce qui est très rare chez un être humain en général. Mais peut-être n'était-il pas complètement humain. Peut-être était-il un descendant des dieux. Oui, car il y a tout un aspect religieux,
mystique.
On découvre. Moi, je ne savais pas qu'Haïlé Sélassié était un des grands roi prophète pour les Jamaïcains,
le
Rastafari, ce mouvement Rastafari dont faisait partie Bob Marley. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film centré, ce n'est pas un biopic au sens où on déroule toute une vie, c'est un film centré sur la personnalité plutôt que sur la vie, et qui fait rayonner cette personnalité à travers des événements parfois très allusifs, quand on ne connaît pas l'ensemble, qui sont à la fois politiques, le contexte, en effet, tout de suite. C'est deux années, en fait, dans la vie de Bob Marley. 76, avec les élections en Jamaïque et ses prises de position politiques. Il apparaît comme une espèce de Mandela ou Martin Luther King, avec une mission de paix, d'amour, de réconciliation, qu'il voudrait accomplir à travers ses concerts, sa musique, ce qui est plutôt sympathique. Il est victime d'une tentative d'attentat et donc il s'exile ensuite à Londres, et c'est là qu'il mettra au point, qu'il créera qu'il enregistre son célèbre album Exodus, dont le réalisateur dit que c'est un monument de musical du siècle dernier, du 20e siècle. Et donc, il y a tout ça. C'est à la fois un portrait politique, humain, artistique, amoureux, religieux. Il y a deux bonnes scènes avec sa femme Rita, un peu longue, développée, où on sent bien sa personnalité à elle. Donc, c'est des choses, je trouve, assez...
Vous avez passé un bon moment.
Intéressantes, oui, vivantes. Mais, bien entendu, c'est très... c'est très uniment positif. On sent bien qu'il doit y avoir des choses derrière, un peu plus cachées, complexes.
C'est un peu le musée Grévin, quoi. mais effectivement...
Lui, l'interprète est excellent, oui, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Oui, mais et alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir la situation de la Jamaïque. C'était quelque chose d'intéressant. Merci à tous deux, Marie-Noëlle Tronchant et Dominique Borne. Je rappelle que nous avons vu pour vous aujourd'hui Vivant, d'Alice Delaporte, Le Molière Imaginaire d'Olivier Py et Bob Marley on Love de Rinaldo Marcus Green. Demain jeudi, je recevrai Christine Pellistrandi pour son livre Moi, Procléa, femme de Ponce Pilate, publié aux éditions du Cerf. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.